Amen. Amen. Quand on s'approche de lui, à la table du Seigneur, on devient comme lui. Et c'est pas ça un peu notre objectif de devenir de plus en plus comme Jésus. Amen. Merci. Merci à chacun. Ce matin, on commence une nouvelle série et j'aimerais qu'on puisse s'émerveiller par la beauté de la parole de Dieu. S'émerveiller de la beauté des richesses qui s'y trouvent. Et pendant l'été, on veut s'émerveiller de qui il est, de ce qu'il fait, de sa parole qui nous a été transmise avec tant d'exactitude à travers les temps. Si vous réfléchissez à ça, qu'on puisse tenir cette parole-là dans nos mains après tout ce temps, c'est un miracle, c'est un tel privilège. Et j'espère que vous la mangez une fois de temps en temps, votre Bible. Ouais, un peu, beaucoup, à la folie. Les fleurs sont sorties, hein? On peut commencer à enlever les pétales. Mais on veut s'émerveiller de son œuvre, de ce qu'il a fait dans le passé, mais également de ce qu'il nous réserve dans le futur. Et c'est un peu l'essence de notre série magnifique. On veut cet été être dans une attitude d'émerveillement, s'émerveiller devant la richesse des beautés, la richesse des passages de la parole. Et ce matin, on va voir quelques émotions de Jésus, et c'est particulier que notre frère Maddy, sa famille également, nous ont parlé de ce témoignage-là. Et ce matin, on va découvrir que Jésus, justement, vit toutes sortes d'émotions. Et il y a quelque chose de magnifique dans ça. Je vais commencer par une citation d'un certain Calvin qui a dit la chose suivante. Il dit, et je pense qu'on l'a à l'écran, « De même que le Fils de Dieu s'est revêtu de notre chair en venant sur la terre, il s'est aussi revêtu volontiers de nos sentiments humains afin de ne différer en rien de ses frères à la seule exception du péché. » Alors, il y a des fois, est-ce qu'on voit Jésus sur terre comme Dieu sur terre qui vaguait au-dessus de tout ça? Lui, il n'a pas d'émotion, il n'a pas su, lui, il est dans sa mission, puis il n'y a rien d'autre. Mais non, alors qu'on ouvre la parole, on se rend compte que Jésus a pris cette forme humaine, mais il l'a vécu dans son entièreté, avec un petit astérisque qui est hyper important, excepté le péché. Il a vécu ses émotions sainement à travers tout ça. Et nous, on se comprend, la chute en Adam a fait en sorte que ça l'a entaché, hein, nos émotions, ça l'a entaché plein de choses, le péché, dans toutes les dimensions humaines. Et puis ce matin, les enfants, vous allez pouvoir apprendre un verset par cœur. Là, vous dites, « Ah non, pas encore un pasteur qui demande d'apprendre un verset par cœur. » Mais, je vous réserve une surprise. C'est le verset le plus facile à apprendre de toute la Bible. Imagine que tu te fais voler tous tes bonbons. Jésus pleura. Ça va? Vous allez vous en souvenir? Ouais, Jésus pleura. Mais Jésus n'a pas pleuré pour des bonbons, là, quand même. On va voir ça ensemble ce matin. Mais Jésus pleura. Deux mots qui en disent très long. Et ces deux mots-là nous confirment l'humanité profonde de Jésus. Cette idée qu'il a revêtu cette même chair que nous, qu'il a revêtu cette même humanité que nous. Et Jésus, dans son séjour sur terre et même dans l'éternité, est pleinement humain et pleinement divin. Et ça, c'est un mystère, hein? C'est quelque chose de plus grand que nous. Et Jésus pleura. Jésus a pleuré et a vécu cette émotion. C'est une émotion qui est sans péché. C'est une émotion qui est pleinement vécue. C'est une émotion qui n'est pas là pour impressionner quelqu'un. Il ne s'est pas forcé de pleurer pour que les autres sentent « Oh, Jésus avait des émotions ». Non, il l'a vécu pleinement. C'est-à-dire que c'était la chose appropriée à faire dans ce moment-là. C'était parfait. C'était cohérent avec qui Jésus était. Alors, peut-être que certains d'entre vous, on pense que Jésus était le faiseur de miracles, il allait partout, il faisait tout, puis lui, il n'y a rien qui... Non, Jésus a vécu ces émotions-là, a vécu toutes sortes de choses comme nous, on peut les vivre. Et il nous donne un modèle pour les vivre sainement. Et cette émotion pleinement vécue, cette émotion pure, est d'ordre de nous révéler la nature de Christ, la nature de l'amour de Jésus. Et savez-vous quoi? C'est magnifique. c'est de toute beauté. Et je veux qu'on puisse regarder ça ensemble. Peut-être vous dites, ouais, mais là, c'est juste le pasteur qui dit ça, là, que Jésus avait des émotions. On va le lire dans Hébreux aussi, OK? Hébreux 2. Par conséquent, Jésus devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus pleura. Jésus pleura. Vous savez quoi? Juste ce texte-là, c'est comme dans nos vies, une émotion sans contexte peut nous paraître superficielle. Une émotion sans contexte peut nous paraître superficielle. La preuve, c'est lorsque vous voyez quelqu'un et puis qui vit une émotion forte, mais vous n'êtes pas renseigné sur ce qui se passe dans sa vie, sur les choses autour, vous dites, ben là, voyons donc, pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer. Si on voit l'émotion comme étant quelque chose de neutre, quelque chose d'individuel qui n'est pas influencé par rien d'autre, on a l'impression que c'est superficiel. Donc, si c'est superficiel, ben, tu pleures, arrête de pleurer. T'es trop joyeux, calme-toi. Tu fais une crise de bacon, arrête. Mange le bacon, c'est meilleur. Faites pas ça, les enfants, s'il vous plaît, OK? Vos parents savent pas comment gérer ça. Moi non plus, d'ailleurs. Mais ce que je veux vous dire, c'est que toute émotion qu'on vit personnellement, elle a toujours un contexte, elle a une histoire, elle a un passé, elle a même un regard sur le futur. Alors les enfants, je vais faire un exemple avec vous. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des examens récemment? Un examen, peut-être pas du ministère. Certains ont fait des examens du ministère, d'autres ont fait ce qu'on appelle des examens de fin d'année, fin d'étape. Et là, imaginez-vous que vous êtes dans cet examen-là, puis il y a une émotion qui arrive, vous avez peur. Vous avez peur. Cette émotion-là n'est pas sans contexte. Hein? Pourquoi? Ben, parce qu'elle exprime plein de choses. Cette peur-là peut exprimer que vous avez peur d'échouer. Vous avez peur de ne pas réussir cet examen-là. Peut-être aussi que vous avez peur de ne pas vous souvenir de ce que vous avez étudié. Peut-être vous avez peur aussi d'un futur cours d'été si jamais la note n'est pas suffisante. Mais même, on peut aller plus loin que ça. La peur va refléter votre histoire, l'histoire des résultats obtenus dans les derniers mois dans cette matière-là. Ça, c'est des souvenirs. Ça peut être aussi l'histoire d'un commentaire d'un papa ou d'une maman. La dernière fois que vous avez échoué un examen, vous vous rappelez de ça. Ce qui fait en sorte que quand vous avez votre crayon puis votre copie d'examen, ça rajoute à la peur. Peut-être qu'il y a l'insécurité de ne pas suivre ses amis au niveau suivant si cet examen-là ne fonctionne pas. On parle de l'aspect social. Peut-être que justement, vous avez peur parce que vous n'avez pas eu le temps ou vous n'avez peut-être pas pris le temps pour les ados de vous préparer. Et là, l'effort donné rajoute au stress, rajoute à l'inquiétude. Peut-être que le niveau de sommeil n'était pas terrible la nuit d'avant, ce qui fait en sorte que ça augmente la peur aussi. Ça, c'est l'aspect physique même. Peut-être qu'il y a un camarade de classe qui a fait la mauvaise blague, la plus mauvaise blague au monde, alors que tout le monde était sur le point de recevoir sa note. Il a dit à toute la classe, « Hey, savez-vous quoi? Il y a un ami qui a fait cet examen-là, je le connais, puis il paraît que c'est l'examen le plus dur de toute votre vie. » Et là, vous êtes là, puis vous dites, c'est une joke ou pas? Et vous êtes dans la peur. Peut-être même que la température du moment fait en sorte que vous êtes plus maussade, ce qui fait en sorte que ça rajoute à la peur. Là, vous dites, mais coudonc, c'est juste un examen. C'est juste un examen, tu fais l'examen est fini, c'est fini. Pourquoi t'as peur? Ce que j'essaie de vous dire, c'est une émotion, elle a toujours un contexte. Et souvent des ramifications très larges, des fois très lointaines, ce qui fait en sorte que quand on simplifie trop, ben, des fois on se plante, hein? On est bons les chrétiens des fois là-dedans, hein? Tu veux une émotion? Matthieu 8, arrête de pleurer. On prend la Bible des fois pour sursimplifier, alors que toute émotion a un contexte, mais j'aimerais vous dire la chose suivante, c'est que même dans Jésus pleura, il y a un contexte. Et ce contexte-là est important et il nous permet de bien saisir le cœur de Dieu, de bien saisir ce qu'il veut dire. Et dans le passage, et là, si vous avez votre Bible avec vous, j'encourage à tourner dans Jean 11. Et dans Jean 11, ça va être quelque chose parce que là, vous dites, hey, c'est le fun, Jésus pleure, on va regarder Jésus qui pleure. Mais dans le même passage, Jésus se réjouit, Jésus aime, Jésus est en colère, Jésus est indigné, bouleversé, et Jésus pleure aussi. Et là, on se rend compte, oh, t'as peu, il me semble que c'était juste Jésus qui pleure. Non, il y a plus que ça. Et à quelque part, le contexte va nous permettre de bien saisir le cœur de Dieu. Et je crois que ça va être une bénédiction pour chacun de nous. Ce matin, on va lire un passage plus long. Hein, c'est ça l'idée. Hein? On s'émerveille devant un passage de la parole. On va lire Jean 11, versets 1 à 44. Alors, si vous l'avez, ça peut être intéressant de suivre. Sinon, on l'a à l'écran. J'ai fait ça pour vous. Hein? J'ai eu compassion de vous. J'ai été bouleversé en dedans de moi à l'idée que vous ne seriez peut-être pas capable de lire avec moi. Je vous ai aimé assez pour ça. Et maintenant, je suis dans la joie de l'avoir faite. OK, bon, là, on a fait la gamme des émotions, c'est correct? On va aller au passage. Il y avait un homme malade, Jean 11, verset 1. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes, un petit peu d'amour ici. Celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, écoutez bien, émotion d'amour ici. Là. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade au verset 6, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare. » Vous voyez encore le lien d'affection entre Jésus et Lazare. Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Ils n'avaient pas compris. Verset 14, Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, « Je me réjouis, on a la joie ici, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi afin de mourir avec lui. » Vous voyez qu'il n'a pas compris lui, hein? Il n'a pas compris pantoute. Verset 17, « À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. » Les enfants, après 4 jours, ça sent. Les adultes, ça sent après 4 jours. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, et là, ici, des fois, on le lit froidement, « Mais si vous êtes en deuil depuis moins de 4 jours, puis que Jésus s'en vient et que vous avez besoin de dire ça, croyez-moi, il y a plus que des mots, il y a une émotion qui vient avec. Je ne serai pas capable de l'exprimer comme elle, mais elle va regarder Jésus et va dire, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » On peut même imaginer une larme ou deux. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, c'est Marthe qui parle de ça. Alors, on va au verset 23. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je le sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Croyez-vous cela, Carrefour? Amen. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Je fais une petite parenthèse ici. Culturellement, à cette époque, lorsqu'il y a un deuil, les endeuillés restent à la maison. Ils n'ont pas le droit de quitter la maison
pour pouvoir recevoir tous les gens qui vont venir offrir leur sympathie, de la nourriture. Et même, on voit ça dans certaines cultures, même parmi nous, il y a des gens qui ont cette habitude-là. Les deux semaines après un deuil, ils vont même pas aller travailler, ils vont rester à la maison pour que si quelqu'un vient pour les sympathies, ils vont être là, ils vont recevoir l'aide et le soutien. Alors, vous comprenez que Marthe, quand elle va vers Jésus, elle dévie de l'ordre culturel pour se rendre vers lui. Et quand elle a la réponse de Jésus, elle dit « Marie, ça vaut la peine que tu y ailles. » Il te demande. Et Marie va faire la même chose et va se déplacer vers Jésus alors que habituellement elle demeure. Elle est supposée demeurer à la maison. Et verset 30, ça nous confirme ça. Jésus n'était pas encore entré dans le village, donc ils sont obligés de sortir du village. Mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie, là on est au verset 31, dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et là, il y a même une description de l'émotion. En la voyant pleurer, elle et aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Verset 35, Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Il interprète les pleurs comme si c'était un signe d'amour auprès de Lazare. On va en parler tout à l'heure. Verset 37, et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? » Verset 38, Jésus de nouveau profondément indigné, puis le mot indigné ici veut dire en colère. C'est pas juste, « Ah, c'est plate. » Non, il y a une colère qui est là. C'est une émotion vive, c'est pas juste une petite affaire passager. De nouveau profondément indigné, Jésus se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Et Jésus dit, « Enlevez la pierre! » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a déjà 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. » Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Ceux qui sont des vieux de la vieille, vous avez en tête la toune de Kate Green, où est-ce qu'il y a cette idée de Lazarus, puis là, il y a comme la toune, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Non? Il y a juste moi? Ah, une personne à l'arrière. Vous n'étiez pas des fans de Kate Green, c'est correct. Oh yeah, ok, je vois ta main, tu peux la baisser. Quelqu'un d'autre va accepter Jésus? Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Je vais arrêter ce référent-là, personne ne le comprend. Ok, mais tu vois Jésus qui crie, « Lazare, sors! » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Magnifique parole de Dieu, magnifique texte, magnifique histoire. Mais c'est une situation qui est bouleversante. C'est une situation, le départ d'une personne chère. On l'a entendu parler tout à l'heure dans le témoignage pour ceux qui étaient là. Et il y a toutes sortes d'émotions qui se vivent là, des émotions qui sont normales, des émotions qui sont légitimes, des phrases poignantes. J'ai déjà accompagné justement des gens qui étaient dans le dernier mille avec des gens proches d'eux, puis qui me regarde en disant, si Jésus était là, il serait avec moi, il ne partirait pas. Et on peut imaginer la détresse dans ce moment-là, tout ce qui peut monter dans notre tête. Si Jésus avait été là, il serait encore avec moi. Et ça nous saisit dans le sens que quand on se met à cette place-là, dans ce récit-là, on peut imaginer, parce que probablement que chacun d'entre nous, on a déjà vécu ça, un deuil, on sait c'est quoi perdre quelqu'un qu'on aimait. Des phrases poignantes comme Jésus qui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Crois-tu cela? Comprenez que cette Marthe-là est en deuil. Et Jésus lui dit cette phrase-là. Oui, mais ça fait mal. Oui, je sais qu'il va ressusciter dans la vie éternelle, mais c'était pas ça que je te demandais. Moi, je voulais que mon frère soit à côté de moi encore. Et on voit un Jésus qui navigue à travers tout ça. Et vraiment, qui navigue dans le sens où il navigue avec ses disciples qui tentent de comprendre mais qui ne comprennent rien. Il navigue avec les sœurs qui sont en deuil dans tous leurs états. Il navigue dans ses propres émotions que personne n'est capable de comprendre. Il navigue à travers l'incrédulité des Juifs qui posent des questions qui n'ont pas rapport, qui ne comprennent pas. Et il navigue surtout en sachant à l'avance la fin de l'histoire. Ça, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. À la fin de l'histoire... Et ça devrait être une source de réconfort et d'espérance pour chacun d'entre nous, cette idée-là que Jésus ne se sauve pas des situations compliquées, Jésus ne se sauve pas des situations bouleversantes, émotives, même s'il n'est peut-être pas aussi pressé que nous, comme les sœurs l'étaient, mais il les vit avec eux tout en ayant un regard complètement différent qu'eux. Jésus sait la fin de l'histoire. Il connaît que Lazare va sortir. Alors, quand il est avec eux, il est capable de vivre ça avec eux, bien qu'il y ait un regard complètement différent qu'eux. Et ça, ça devrait nous réconforter. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette assurance-là que Jésus vit les choses avec nous, même qui sont terribles. Et on a cette assurance-là qu'il n'y a pas le même regard que nous. Et ça devrait être assurant. Ça devrait être encourageant. Des fois, peut-être que c'est fâchant. Parce qu'on aimerait ça que Jésus soit aussi dans l'urgence que nous. Mais il y a un texte qui va dire que ses voix sont plus hautes que nos voix, que ses pensées sont plus grandes que nos pensées, et même qu'elles sont différentes. Hein? Et ça m'a toujours émerveillé. Cette idée-là que Jésus pleure même s'il connaît la fin de l'histoire. Si demain matin, un de vos amis proches perdait son travail de façon complètement inattendue, et il se retrouve, il était déjà dans une situation financière précaire, perd son emploi du jour au lendemain et dans tous ses états. Et là, vous êtes là à côté de lui, vous êtes là pendant qu'il reçoit cette nouvelle-là. Et il est dans un état genre, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais te perdre ma maison. Vous comprenez ce genre d'état-là? Vous avez déjà vu ça? Mais vous saviez que le frère en question ou la sœur en question allait recevoir une offre meilleure à tous égards d'emploi le lendemain matin. Il est là à côté de vous, là, puis il est dans tous ses états. Seriez-vous capable de pleurer avec lui? Ben, il y en a qui sont bons pour pleurer. Il y en a qui n'ont pas juste appris le verset « Jésus pleura », ils le mettent en pratique souvent. Mais est-ce qu'on aurait été capable de pleurer avec le frère ou la sœur qui vient de perdre son emploi? Ou peut-être pas tant que ça, peut-être qu'on aurait été... Ben là, voyons donc... Je suis certain, là, certain promis qu'il va y avoir des belles choses qui vont venir. Et probablement que ça ne consolera pas la personne à côté. Moi, je suis émerveillé de Jésus qui pleure quand même. Jésus ne se cache pas de la vérité. Il va le dire à sa sœur. Il va ressusciter. Mais elle ne comprend pas. Elle ne le saisit pas. Et même si elle ne le saisit pas, Jésus va pleurer avec elle, même s'il connaît la fin de l'histoire. Et si on va aller plus loin, pourquoi est-ce que Jésus pleure? Pourquoi Jésus pleure-t-il? Les Juifs pensaient que, ah, voyez comment il l'aimait. C'est parce qu'il aimait Lazare tellement qu'il pleure. Mauvaise réponse. Il sait qu'il va être vivant dans quelques instants. Il ne pleure pas Lazare. Il pleure pour d'autres choses. Mais pourquoi pleure-t-il? Les Juifs pensaient qu'ils pleuraient parce qu'ils aimaient Lazare, mais la réalité, c'est qu'ils ne comprenaient pas que l'amour de Dieu était tellement plus large que juste dirigé vers un individu. L'amour de Dieu est toujours plus large que ce qu'on peut même imaginer. Et alors que nous, nos yeux sont focalisés, « Oh, c'est parce qu'ils aimaient Lazare! » En fait, on se rend compte que l'amour qui est en train de manifester est beaucoup plus large et dirigé vers un beaucoup plus grand large éventail de personnes qui sont présentes dans ce récit-là. Et c'est ce même amour-là par lequel il allait verser son propre sang. Il ne pleure pas Lazare, mais il pleure pour les sœurs et même plus large que ça. Jésus pleura. Et on va continuer, je vous amène à quelque part, OK? inquiétez-vous pas, il y a quelque chose dans ma tête qui se passe, là. On va aller à quelque part. On va faire un petit détour vers l'indignation et la colère de Jésus pour comprendre ce sentiment d'amour-là et de pleurs que Jésus va avoir. Vous savez, la colère et l'amour, bien que ça nous semble opposé l'un à l'autre, en fait, ces deux émotions-là sont liées et peuvent coexister, voire même s'influencer mutuellement. Qu'est-ce qu'il dit? La colère et l'amour sont souvent perçus comme des émotions complètement opposées à première vue, mais en fait, ce sont des émotions qui sont vraiment liées et qui peuvent coexister, voire s'influencer, et c'est ce qu'on va voir à travers ce récit-là. On va relire juste la partie où est-ce que Jésus est... Il y a comme le bouleversement, il y a comme les pleurs, puis après ça, il y a le bouleversement. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Où l'avez-vous mis? Et là, Jésus pleure. Et plus tard... Quand il pose la question bizarre, ben là, s'il avait ouvert les yeux des aveugles, ben pourquoi il ne pouvait pas faire en sorte qu'ils ne meurent pas? Encore une fois, Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. Et l'indignation parle vraiment de colère ici. En quelques instants très brefs, Jésus passe de la colère aux pleurs, tout ça par amour. Et ces deux émotions-là vont nous donner des indices sur le pourquoi des pleurs. En fait, le vrai problème ici, ce n'est pas la mort de Lazare. Le vrai problème est beaucoup plus grand. Le vrai problème que Jésus voit, c'est toute la conséquence du péché, toute la conséquence de ce qui se passe et les effets du péché, la mort, la maladie, la tristesse, le deuil, tout ça. C'est des conséquences de quoi? Du péché? Des conséquences de la chute? Et Jésus se retrouve dans un instant où est-ce qu'il voit toutes les conséquences, il voit tout ce qui est en train de se passer comme effet. Et il est profondément indigné, il est en colère. Pourquoi? Pourquoi il serait en colère? Il est indigné des conséquences du péché dans cette situation-là, indigné de la maladie, et indigné des effets sur les gens qui lui sont chers. Tellement indigné qu'il va manifester quoi? Sa compassion. Il va manifester son amour. Et même après ses pleurs, il est encore profondément indigné. Les gens ne comprennent pas la source de sa tristesse et ne pouvaient pas comprendre. Mais lui, il était triste pour le groupe entier qui voyait toutes les conséquences. Et il va s'indigner d'autres choses aussi. Quand les Juifs vont parler de « Ah, mais là, si Jésus avait été là et... » Pourquoi que s'il ouvre les yeux des aveugles, il ne pourrait pas ressusciter les morts? Pourquoi qu'il n'aurait pas empêché ça? Et Jésus s'indigne de l'incrédulité. Jésus s'indigne de... Oh, qu'est-ce que c'est ça, ce raisonnement-là? En français, on va dire, c'est quoi ce raisonnement de bottine-là? Petite bottine? Un raisonnement de soulier, là. Ça ne vole pas haut. Pourquoi est-ce que c'est aussi incrédule? Pourquoi ces gens-là, alors que je fais des miracles... vont dire des phrases comme ça. Et Jésus va s'indigner encore une fois de l'incrédulité, du manque de foi, de tout ça. Et il sait que ce raisonnement-là vient pas de Dieu. Hein? Ce raisonnement-là vient aussi de toute l'incompréhension. Et c'est par amour pour les gens que Christ s'indigne. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Si quelqu'un fait mal à mes enfants, je vais être en colère. Et ce n'est pas parce que je vais avoir été méchant, c'est parce que je les aime assez que je ne veux pas qu'on leur touche. Ça va? J'espère que c'est la même chose pour vous. Si quelqu'un vraiment attaque votre époux ou votre épouse, j'espère que vous ne serez pas comme « Continue, c'est beau! » Non! S'il n'y a pas de colère à l'intérieur, c'est qu'il manque un peu d'amour. Fine, oui, on est là ensemble. Si quelqu'un touche ou parle, c'est sûr qu'il va avoir une colère. Maintenant, quand Jésus, on dit que Jésus est en colère, des fois, nous autres, l'idée de la colère, c'est quelqu'un qui l'échappe complètement. C'est une colère incontrôlée, c'est une colère qui ne réfléchit plus, c'est une colère que c'est comme les fils ne se touchent plus, l'électricité ne se rend pas. Ici, Jésus ne parle pas d'une colère de ce type-là. Quand il s'indigne, il n'est pas dans une colère incontrôlée. Il est dans une colère saine, pleinement vécue, cohérente avec qui il est et sans péché. Et il se pourrait que nous aussi, si quelqu'un fait mal à mes enfants, même si je possède un bat de baseball, je peux être en colère sans lui briser les jambes. Je ne dis pas que l'idée ne passera pas dans le cerveau, mais il faut qu'elle sorte. Hein? Vous comprenez? J'ai l'air bien violent, mais c'est pas vrai. Je suis violent quand c'est une balle de baseball. Ça me fait plaisir. Mais vous comprenez que l'amour s'exprime à travers la colère. Et Jésus voit finalement quoi? Jésus voit tous les effets de ce péché-là qui ronge les uns et les autres. Ce deuil-là, cette tristesse-là, cette incompréhension. Et là, on voit Jésus qui pleure, Jésus qui s'indigne, Jésus qui est bouleversé. Il y a quelque chose d'autre qui m'émerveille. C'est que Jésus pleure même s'il voit tout le beau qui va ressortir de cette situation-là. Parce que non seulement il sait qu'il va ressusciter, il sait qu'il va avoir des belles choses qui s'en viennent, mais il pleure quand même. Il pleure quand même. Et comme notre frère l'a dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours, mais on peut décider de faire confiance à Dieu, que lui va être capable de faire sortir du beau, même si c'est de la laideur dans toute sa splendeur et de l'odeur dans toute sa splendeur. Après 4 jours, c'est de l'odeur rendue là. Et on a le privilège dans ce récit-là de savoir pourquoi est-ce que tout ça arrive. Là, vous dites, ah, moi aussi, je veux ça. Lazare ne le savait pas avant que ça arrive. Il l'a appris après. Ça va? Pourquoi est-ce que tout ça se passe? Et on le voit au verset 15, ça veut dire pour que les disciples croient. Au verset 25 et 26, l'idée de hey, « je suis la résurrection et la vie, crois-tu cela? » Ça, c'est des phrases qui ont influencé les chrétiens pendant des générations et des générations sur l'existence, la portée, la puissance de la résurrection en Jésus-Christ. Non seulement ça, au verset 40, Jésus va expliquer que c'est pour que la gloire de Dieu soit visible. Au verset 41-42, il va dire, c'est pour que les disciples voient la relation entre Christ et son Père. Cette relation, quand il va dire, ah, je sais que tu m'accordes tout ce que je demande parce qu'on est un. Pourquoi est-ce qu'il dit? Il ne dit pas pour que Dieu soit convaincu dans le ciel. Il est en train de le dire, pourquoi? Pour que les disciples voient cette proximité qu'il y a entre le Père et le Fils. Alors, tout cet événement-là, il y a plein de raisons qui... Pour Jésus, c'est très logique. Ben oui, c'est pour ça. Pour la gloire, pour que les disciples croient, pour que les générations sachent c'est quoi la résurrection, pour que les gens, les disciples voient la proximité du Père et du Fils. Mais au-dessus de tout ça, il est en train de révéler le cœur de Christ, il est en train de révéler le cœur d'amour même du Père. Romains 8, 28 va dire, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Est-ce que Dieu peut pleurer avec toi aujourd'hui, même s'il sait que dans la prochaine saison, tu vivras le beau que tu ne vois pas maintenant? Est-ce qu'on est prêt à croire ce matin que Dieu est capable de pleurer avec nous aujourd'hui alors que tout va mal, même si lui, il sait que ça va concourir au bien de ceux qui l'aiment? Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle du cœur d'amour. Ça nous parle du cœur de compassion de Jésus-Christ. Ça nous parle de quelque chose de tellement plus profond. Il est capable. C'est rare qu'on le voit comme ça, hein? Quand on vit des moments vraiment difficiles, souvent on va dire les mêmes phrases que les sœurs. Hey, si Jésus t'était là, ça ne serait pas si tough que ça. Voyons donc, Jésus, il me semble que c'est le temps, là. Ça fait 10 fois que je prie. Amen. Si tu agissais, ça serait simple. Tu as juste à faire ça, 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 puis ça. Amen. Jésus est excellent pour pleurer avec nous dans le moment difficile, même s'il sait que la prochaine saison est meilleure. Quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Être un disciple de Jésus-Christ ne signifie pas que les morts ressusciteront à chaque jour autour de moi. Être un disciple de Jésus-Christ, le pasteur Francis le dit tantôt, c'est « je comprends pas, mais je te fais confiance que tu peux changer le mal en bien. Mais je suis prêt à accepter que dans le ciel, tu pleures avec moi. » Je ne sais pas s'il y en a pour certains, je pense que ça éveille quelque chose, là. Parfois, dans nos conceptions de Dieu, on a vu un Dieu autoritaire qui se fout un peu tout, là, tu sais, qui se dit, ben là, s'il se souciait de moi, il aurait tout fait ce que je voulais. Puis peut-être à cause du modèle parental, on a vu un Dieu très rigide, très... Mais j'aime voir, et j'aime ce récit-là de voir Jésus qui est capable de pleurer, même si c'est que Lazare va résister, même si c'est que la prochaine saison va être meilleure. Ça devrait parler à quelqu'un ce matin. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est de comprendre que Dieu peut vivre ces émotions-là que moi je vis. Mais ça veut dire quoi? Des fois, c'est le contraire. Des fois, Dieu nous permet de vivre les émotions de son cœur pour les autres. Des fois, Christ va nous donner une compassion, un amour, une joie. Il va nous communiquer son cœur pour les autres. Ça vous est-il déjà arrivé qu'il y a des gens que vous aimez puis vous dites, je ne sais pas comment je fais pour aimer cette personne-là, mais c'est comme si je ressens cet amour-là qui ne vient pas de moi. Ben, pratiquez-vous avec moi au pire, là. Si vous êtes, ouais, hein. Il y a des gens qui sont plus haïssables que d'autres, hein? Ouais, des gens plus déplaisants que d'autres. Des gens qui ne comprennent pas ce qu'on essaie de faire, ce qu'on dit. Et il y a des moments, et je vous souhaite qu'ils soient nombreux, des moments où est-ce que non seulement Christ comprend notre cœur et notre tristesse et pleure avec nous, mais des moments où est-ce qu'on est dans la prière, puis on demande, Seigneur, donne-moi ce cœur de compassion pour mon voisin. Donne-moi ce cœur. Donne-moi le cœur que tu as pour les autres. Faites cette prière-là des fois. C'est une bonne prière, je crois. C'est une excellente prière. Demandez aux musiciens de venir me rejoindre ce matin. Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse recevoir une fraîche révélation de l'amour et de la compassion de Jésus-Christ. Et dans ce récit-là, l'amour fait toute la différence. L'amour fait vraiment toute la différence. Et savez-vous quoi? J'ai une grande révélation pour vous. Dans vos vies, l'amour de Jésus-Christ a fait toute la différence. Quand on pense à la croix, quand on pense à la parole, quand on pense à toute la compassion et la patience, est-ce que vous pouvez imaginer la patience que Christ a eue envers vous? Il y en a des têtes de cochon ici, là? Ouais? Imaginez la patience que Christ a eue envers vous. Moi, je fais juste regarder ma vie, puis je suis comme, waouh, j'aurais pas eu cette même patience-là. Peut-être c'est juste moi, tant mieux. Mais dans ce récit-là avec Lazare, l'amour fait toute la différence. Pourquoi? Parce que Jésus pleure avec ceux qui pleurent. On va vous dire que Jésus pleure avec nous ce matin. Jésus pleure des conséquences du péché sur ceux qu'il aime. Il partage la tristesse des souffrances. Il y a un détail que peut-être vous avez échappé, mais quand Jésus dit « Hey, on va aller là-bas, on va y aller », les disciples disent quoi? Ils disent « Mais là, hey, on ne va pas là. » Il allait te lapider, il allait te tuer. Tu vas retourner là? » J'aimerais vous dire la chose suivante. Jésus, dans ce récit-là, ne laisse pas les menaces d'être lapidé l'empêcher d'être présent. Et ça parle du caractère de Jésus. Il est toujours présent avec nous. L'indignation de Jésus nous montre son amour. Il t'aime d'un amour éternel, tout en détestant le mal qui se produit dans ta vie. Il t'aime d'un amour éternel, tout en détestant l'incrédulité et le manque de foi qu'il peut y avoir dans nos vies. Ça fait partie du cœur de Jésus que j'aime. Jésus est capable d'absorber la tristesse de ceux qui l'entourent. Peut-être des gens ici, vous vivez des choses puis vous avez l'impression d'être seul au monde. C'est comme je suis seul avec moi-même puis je vis ça. J'aimerais vous dire qu'à travers ce récit-là, on voit le cœur de Christ qui est capable d'absorber cette tristesse-là de Marthe et Marie, des Juifs qui l'entouraient. il marche avec nous. Pour vrai, il marche avec nous. Et non seulement ça, Jésus, l'amour de Jésus intervient puissamment dans nos vies. Il y a toujours bien un mort qui ressuscite ce jour-là, hein? Imaginez la gamme d'émotions. La tristesse, la compassion, l'indignation, la joie. Il marche. Il marche pour vrai. Lazare est sorti. Il sent, mais on est content de le voir. Non, mais imaginez la joie, là. Je veux dire, moi, j'ai pas vu ça tous les jours, une résurrection des morts, là. Il est vivant. Et l'amour de Christ va prendre ce moment-là, va dire, par amour, sors, Lazare, sors. C'est extraordinaire. J'aimerais vous parler d'un Dieu qui pleure avec toi ce matin. Un Dieu qui s'indigne du mal. J'aimerais te parler d'un Dieu qui s'indigne quand on est dans l'incrédulité plutôt que la confiance en lui. Je parle d'un Dieu qui peut absorber tes émotions, qui peut absorber ton cœur. Je parle d'un Dieu qui t'aime parfaitement. On parle ce matin d'un Dieu qui voit plus loin que nous. On parle d'un Dieu qui nous émerveille. Je ne sais pas si vous aimez ce passage-là. Moi, je trouve ça de toute beauté. Et si ce matin, tu acceptais qu'il pleure avec toi? Et si ce matin, Jésus devenait la personne en qui tu confies ces émotions meurtries qui peut-être te rongent depuis trop longtemps? Et si plutôt que t'indigner contre Dieu pour le mal que tu vis, et si tu t'indignais du péché qui ronge le monde? Parfois, on s'indigne contre la mauvaise cible, n'est-ce pas? On est fâché contre Dieu, alors que c'est pas contre Dieu qu'on a besoin d'être fâché. C'est contre cette pourriture de péché qui nous pourrit la vie chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Alors, il y a juste moi qui est pourri par le péché. Il y a juste moi qui vis les conséquences dans notre monde. Je le sais que non. Et si ce matin, tu faisais confiance au cœur de Jésus? Et si ce matin, tu lui faisais confiance qu'il t'aime tellement, qu'il est en colère quand le mal surgit contre toi? Et si tu lui faisais confiance? Est-ce qu'on peut courber la tête? J'aimerais prier. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et j'aimerais que chacun d'entre nous, on puisse élever cette prière, peut-être dans notre cœur. Ça peut être à voix haute si vous voulez, mais le but, ce n'est pas d'impressionner personne. Le but, c'est juste de parler à Dieu. Et je pense des gens ici qui ont besoin de réinterpréter des moments de leur vie où ils ont pensé que Dieu était absent alors que Dieu pleurait à côté d'eux. Et si c'est ta situation, je te demande de prier que Dieu puisse te révéler les moments où est-ce qu'il était pleinement présent et toi, tu pensais qu'il était absent. Et peut-être ce matin, tu vis une impossibilité tellement grande, tu ne sais pas comment que tout ça peut se régler. Je t'invite à prier avec foi ce matin. Prier avec foi que Dieu puisse faire l'impossible comme il a fait l'impossible avec Lazare. Et j'aimerais t'inviter peut-être à juste dire, Seigneur, puisses-tu me révéler ton cœur d'amour ce matin? Est-ce qu'on peut faire ça chacun de notre côté ce matin, à la maison également? Seigneur Jésus, merci. Seigneur, comme ces Juifs, comme Marie, comme Marthe. Seigneur, on veut reconnaître ce matin qu'on ne peut pas comprendre la profondeur de ton cœur, on ne peut pas la comprendre comme toi tu es parfaitement, Seigneur. Mais Seigneur, je te prie qu'à travers différents événements de nos vies, dans nos temps de prière, dans la lecture de ta parole, on puisse comprendre de mieux en mieux la grandeur, la hauteur, la largeur, la profondeur et la longueur de ton amour, Seigneur. Alors Jésus, on te remercie parce que tu es un Dieu qui pleure. On te remercie, Seigneur, de ce que tu vis ces émotions-là sainement. Merci d'être ce modèle pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu tellement merveilleux. Seigneur, on veut se réjouir de ton cœur pur. On veut se réjouir, Seigneur, de ce que tu es lent à la colère, riche en miséricorde, en compassion. Merci, Seigneur, d'être qui tu es. Amen. Amen.